Vous êtes avec SBS French.
Et les principales informations de ce mardi 4 mai 2021. La Commission européenne veut rouvrir les frontières aux ressortissants des pays tiers qui sont vaccinés contre le coronavirus pour relancer le tourisme. On ira à Bruxelles en tout début de journal. L'un des plus grands réseaux de pédopornographie en ligne vient d'être démantelé en Allemagne. Ce site hébergé sur le dark web comptait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Et en Australie, Scott Morrison tente d'éteindre la polémique concernant sa décision d'empêcher les Australiens actuellement en Inde de rentrer chez eux. Et je vous le disais donc dans les titres, la Commission européenne vient de proposer aux États membres d'autoriser l'entrée des visiteurs venus de pays tiers, du moins s'ils sont vaccinés et avec un vaccin autorisé dans l'Union européenne contre le coronavirus. L'objectif, bien sûr, c'est la relance du tourisme. On fait le point à Bruxelles avec Pierre Benazet de RFI.
La Commission européenne propose d'abord d'ouvrir les frontières de l'Union aux voyageurs vaccinés. Seraient autorisées à entrer sans condition dans l'UE toutes les personnes pouvant prouver une vaccination complète, soit avec un des vaccins approuvés par l'Agence européenne du médicament, soit avec un vaccin de la liste des homologations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. La Commission cherche d'ores et déjà à établir des critères communs pour la validité et l'authenticité des preuves de vaccination, qui pourrait être compatible avec le certificat numérique vert dont les Européens pourront disposer courant juin. La Commission propose aussi d'autoriser les voyages non essentiels pour les voyageurs provenant de pays considérés comme sûrs. Il n'y en a que 7 pour l'instant, avec un critère, 25 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les deux semaines précédentes. Sachant que la moyenne européenne est à 426 nouveaux cas pour 100 000, la Commission propose de relever ce seuil à 100 nouveaux cas afin de pouvoir classer des pays comme sûrs. Cette porte ouverte aux voyageurs non essentiels devra maintenant recevoir l'aval des 27 capitales, ce que la Commission européenne espère pour la fin du mois. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et on reste en Europe, direction Londres maintenant, où se sont réunis les ministres des pays du G7, la première rencontre en présentiel depuis 2 ans pour ce sommet international. Alors il a été question notamment de la Chine, du programme nucléaire iranien, du Brexit, mais aussi de l'Irlande du Nord. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a ainsi rappelé son soutien sans équivoque à l'accord de Belfast signé en 1998 et qui formalise le partage du pouvoir sur ce territoire entre nationalistes et unionistes.
The United States remains a steadfast supporter of a secure and prosperous Northern Ireland in which all communities have a voice and can enjoy the gains of the hard-won peace. Like several US presidents before him, President Biden has been unequivocal in his support for the Good Friday Agreement, which was a historic achievement and one that we should protect.
Et les participants à ce sommet sont également revenus sur le retrait des troupes américaines en Afghanistan, un sujet à propos duquel Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères, estime que le Royaume-Uni et les États-Unis sont en accord total sur cette question.
We've had very good consultation on this and we continued that, we discussed it today. We certainly see the priority is protecting our troops in the period between now and September, making sure that we preserve the ability to deal with counterterrorism, that the gains that were hard won in Afghanistan are not lost, and also ultimately promoting dialogue and a peace process that benefits all Afghans and leaves Afghanistan as stable as possible, as inclusive as possible.
Et l'Organisation mondiale de la santé qui enfin annonce une bonne nouvelle. Ses experts scientifiques viennent de confirmer que dans les pays qui ont déjà vacciné plus de 50% de leur population, l'épidémie de coronavirus a très nettement reculé. Un signe encourageant qui laisse penser que le vaccin est efficace pour réduire la transmission du virus, même si pour l'instant ça n'a pas encore été démontré scientifiquement. Malheureusement, en revanche, pour l'Inde, il va falloir encore beaucoup de temps avant que la moitié de son immense population soit vaccinée. C'est ce que déplore le médecin-chef de l'OMS, Soumya Swaminathan.
A country like India has about 1 billion people to vaccinate, so this is not going to happen overnight. And I think India has done well in terms of rolling out the vaccination program, in using the private sector and the public sector to do that. The limitation, of course, right now is the supply.
Alors, ceci étant dit, le monde prend quand même la bonne direction. Le taux d'infection au Covid-19 à l'échelle mondiale a chuté cette semaine. Et ça n'était pas arrivé depuis la mi-février. Dans le reste de l'actualité internationale, au moins 36 civils ont été tués dans un village de l'est du Burkina Faso hier. Ce qui en fait l'attaque la plus meurtrière perpétrée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2015. Dans les faits, des hommes armés, pas encore identifiés pour l'instant, ont surgi dans ce village, abattu ses habitants et même incendié les maisons. À Ouagadougou, le compte-rendu de Yahya Boutani pour Radio France Internationale.
Les assaillants ont fait irruption dans le hameau de culture de Koudiel lundi autour de 5h du matin. Selon les témoignages recueillis par les sources sécuritaires sur place, ils étaient environ 300 personnes et l'attaque a duré jusqu'à 7h. Ils ont encerclé le village et massacré la quasi-totalité des hommes, selon un témoin cité par notre source. Seules les femmes et les enfants ont été épargnés. Le nombre exact des victimes reste pour l'heure inconnu. Le gouverneur de la région de l'Est parle de plus d'une dizaine de civils tués. Des sources sécuritaires font état d'au moins 30 personnes, parmi lesquelles deux volontaires pour la défense de la patrie abattus. Parmi les civils tués figurent le chef du village et plusieurs membres de sa famille. On dénombre également une vingtaine de blessés. Par ailleurs, une dizaine d'assaillants ont été abattus par les volontaires pour la défense de la patrie. Ces hommes armés ont vandalisé le centre de santé et vidé le dépôt pharmaceutique. Ils ont intimé l'ordre aux agents de santé de quitter le village. Les concessions et les greniers ont été incendiés. Selon nos sources, des boutiques ont été saccagées et du bétail emporté. Les rescapés ont fui vers la commune de Futuri. Yahya Boudani, Ouagadougou, RFI.
En Allemagne, l'un des plus grands réseaux de pédopornographie en ligne vient d'être démantelé. La police allemande a annoncé hier avoir fermé une plateforme qui était hébergée sur le Darknet où des centaines de milliers d'utilisateurs se partageaient des photos et des vidéos représentant des abus sexuels commis sur des enfants. Trois administrateurs de ce site ont été arrêtés. La correspondance à Berlin de Pascal Thibault pour RFI.
Plus de 400 000 personnes dans le monde entier étaient enregistrées sur la plateforme Boys Town. Par comparaison, un autre site pédophile d'importance démantelé il y a 4 ans comptait 100 000 utilisateurs. L'opération de la police allemande en collaboration avec d'autres pays qui vient d'être rendue publique a eu lieu à la mi-avril. Trois Allemands ont été arrêtés, une quatrième personne qui réside au Paraguay devrait être extradée. La plateforme qui existait depuis juin 2019 servait à l'échange de vidéos ou de photos montrant avant tout des garçons parfois de très bas âge. Les serveurs de Boys Town se trouvaient en Moldavie. Les personnes arrêtées géraient le réseau et donnaient des conseils aux utilisateurs pour ne pas laisser de traces sur Internet qui auraient permis des poursuites à leur encontre. Les responsables du réseau Elysium, démantelé en 2017, également géré en Allemagne, avaient été condamnés à des peines allant de 4 à 11 ans de prison. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'actualité en Australie, c'est Scott Morrison qui est revenu sur la polémique autour de la suspension des vols depuis l'Inde. Alors que plus de 9000 Australiens se trouvent actuellement en Inde, le Premier ministre a tenté de minimiser l'impact de cette mesure annoncée la semaine dernière en rappelant qu'elle n'est que temporaire, elle doit être levée le 15 mai. C'est ce qu'il a expliqué dans la matinale de Channel 7.
It's a 14-day pause, as I've said, but also if people have been in other places outside of India for 14 days, then they can return home at the moment. So this is a two-week pause. This is not a permanent pause. This is not a four-month lockdown. What we're seeking to do here is ensure that Australia doesn't get a third wave of COVID across the country. And that would, damage our economy, damage interests. And as we saw in Victoria with the second wave, we saw hundreds of people who were fatalities of that second wave. That's what we're trying to avoid.
Donc la suspension de tous les vols entre l'Australie et l'Inde, mais ça n'est pas la seule mesure qui a été prise récemment. Le gouvernement a aussi décidé d'exposer ceux qui tenteraient de gagner l'Australie depuis l'Inde via un pays tiers, comme par exemple le Qatar, à des amendes extrêmement élevées, plus de 60 000 $, et même à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Une décision critiquée par beaucoup, jugée même raciste par certains, et que n'approuve pas non plus l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull. D'après lui, le droit à rentrer chez soi est inaliénable.
This pandemic has been a huge challenge for governments, and you can look back in hindsight and you can pick off plenty of mistakes that our governments have made, but overall they've done a very good job. So it's not for me to be overly critical of what's not been done in the past. But I think there is a fundamental principle here. Australians must always have the right to come home. That is one of the rights of being an Australian citizen. And I've been shocked that that has been effectively abrogated in this instance. So that was a mistake. That should be rectified.
Et ce point de vue, il est totalement partagé également par le leader de l'opposition, Anthony Albanese. Lui, il a rappelé que quand l'Australie a suspendu l'an dernier ses vols vers et depuis la Chine, le gouvernement avait dans le même temps trouvé et mis en place des solutions pour rapatrier ses ressortissants en Chine.
The government needs to put in place mechanisms so that they can get Australians home. When there was a travel ban from China, the Australian government chartered aircraft to get people back from Wuhan. At the peak of the outbreak, that occurred. This government has done nothing to put in place those measures. What they've done is threaten people and then withdraw the threat.
Et sur cette question, enfin, la pression sur le gouvernement, elle vient aussi de la communauté indienne en Australie qui presse Canberra de laisser les Australiens en Inde rentrer chez eux ici en Australie. Pour le docteur Yadu Singh, qui préside la Fédération des associations indiennes de Nouvelle-Galles du Sud, aider les Australiens en Inde, c'est une obligation morale pour le gouvernement.
People of a particular type of Australian citizens are being targeted. If anything, moral obligation of Australia means that they should be brought here as soon as possible. And if they can't bring all 8,000 of them, at least think about bringing 690 people who are classified as vulnerable people in India.
Et sur un plan plus local maintenant, le gouvernement du Victoria est sous le feu des critiques puisqu'il vient d'annoncer la mise en place de subventions pour les personnes qui souhaiteraient acheter des véhicules électriques. Alors jusqu'ici, tout va bien. La somme annoncée pourrait aller jusqu'à 3 000 $ par véhicule. Sauf que dans le même temps, ce même gouvernement, il veut aussi taxer l'utilisation des voitures électriques à hauteur de 2,5 cents par kilomètre parcouru. Et ce, à partir du 1er juillet. La raison avancée étant le financement et le développement des bornes de recharge sur les routes dans l'état du Victoria. Alors cette mesure de taxation, elle devrait rapporter 30 millions de dollars sur 4 ans et coûter par automobiliste propriétaire d'une voiture électrique entre 250 et 300 dollars par an. La mesure est vivement critiquée car elle est perçue comme un frein très net à l'adoption des véhicules électriques et ce alors que l'Australie est déjà très en retard en la matière par rapport aux autres pays développés. Et puis pour finir ce journal, comme d'habitude, on fait un point rapide sur la météo de ce mardi en Australie. Il pleut à Perth où il fait 22 degrés aujourd'hui, 18 degrés à Adelaide qui va passer une partie de la journée dans la grisaille, 14 petits degrés à Melbourne où il y a aussi des averses aujourd'hui, temps pluvieux également à Sydney où le thermomètre affiche 21 degrés, 26 degrés et du soleil en revanche à Brisbane. Et du soleil aussi à Darwin, où la température maximale sera de 34 degrés aujourd'hui.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.